Et donc voilà, morceau choisi de ce débat de dimanche dernier. On commence tout de suite avec Finn Hermann du Danemark pour l'Alliance Rouge et Verte.
L'Alliance Rouge-Verte du Danemark est à l'heure actuelle le seul parti de gauche au Parlement qui dit non au projet de constitution européenne depuis que le Parti socialiste s'est mis d'accord, comme disait ma voisine, avec la majorité des partis du gouvernement et de l'opposition pour recommander un oui. Le peuple danois a droit à un référendum le 27 septembre 2005. Les peuples européens ont raison de craindre pour l'autonomie de leurs États et pour la démocratie. Lors des récentes élections, nous avons lutté dur pour que la question constitutionnelle soit mise à l'ordre du jour dans les débats. Or, ni le gouvernement, ni les grands partis de l'opposition, ni les médias dominants ont voulu y prendre part. Jusqu'ici, les sondages montrent un faible oui au projet. Or, nos expériences nous disent que ce oui peut facilement se changer en un non. Et peut-être la situation changera tout à fait après le référendum français. C'est une possibilité que nous n'aurons pas besoin de faire notre propre référendum. Or, le Premier ministre ne veut pas discuter la matière. Pour l'Alliance Rouge-Verte, les trois points essentiels de notre rejet du projet de Constitution sont, premièrement, le renforcement du néolibéralisme avec augmentation de privatisation, avec la vie précarisée des travailleurs, des défavorisés. Deuxièmement, la formalisation et le renforcement de l'aspect militariste de l'Union européenne. Et troisièmement, la dégradation de la démocratie au profit de la bureaucratie, avec droit d'initiative augmentée de la Commission européenne, avec tous les mécanismes d'une puissance impérialiste. Pour l'Alliance Rouge-Verte, la perspective de cette lutte est de refouler le projet de cette union antidémocratique et d'en retirer le Danemark tout à fait. Nous disons pas seulement non à ce projet constitutionnel, nous disons non à tout projet constitutionnel. Quelques-uns nous accuseront de suffisance et de chauvinisme rétrograde. Ai-je besoin de dire qu'il n'en est pas question? Or, nous nous sommes engagés à défendre nos acquis démocratiques et l'autonomie de notre pays, non seulement dans le cadre des forces socialistes et communistes, mais également en concordance avec des cercles de sensibilité plutôt bourgeoise qui sont organisés avec nous dans deux mouvements, le mouvement populaire contre l'Union européenne et le mouvement dit de juin. Ceci dit, nous sommes également internationalistes dans l'Alliance Rouge-Verte. Le monde est pour nous plus grand que l'Europe. Nous nous opposons tant au chauvinisme national qu'au chauvinisme européen. Il n'y a pour nous aucune contradiction entre la défense des acquis démocratiques nationaux et l'application de ces dénominateurs communs qui seront à la base de la lutte pour un autre monde.
Voilà, donc c'était Finn Hermann du Danemark pour l'Alliance Rouge et Verte. On enchaîne tout de suite avec Janine Guespin, donc cofondatrice du réseau européen European Scientific Social Forum, qui va rappeler un peu les dispositions de Bruxelles sur l'orientation des choix de recherche scientifique et également sur la place accordée aux citoyens dans ces décisions de recherche.
Ce dont je vais vous parler concerne pas un pays, mais concerne effectivement toute l'Europe. Et on a démarré les discussions à l'occasion des forums sociaux européens. On a ensuite créé un réseau European Scientific Social Forum qui s'occupe de ce qu'on appelle le 7e PCRD. Il parle de la notion de société économie de la connaissance, qui est en fait la base de ce qu'on appelle l'agenda de Lisbonne, qui est donc en fait la base de toute la politique économique actuelle de l'Europe. Une société économie de la connaissance, donc qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Il y a énormément de choses à dire, j'ai pas beaucoup de temps, j'en aborderai seulement deux aspects. En particulier les dommages à très long terme infligés à la société par la politique scientifique prônée par Lisbonne et les méthodes mises en place, y compris le rôle du traité constitutionnel. Ça part à travers des programmes cadres avec des noms compliqués, 6e PCRD, qui est un programme qui détermine la recherche qui doit devenir le cœur de la politique scientifique dans toute l'Europe. Ça n'est pas encore le cas, il y a des freins, et on peut voir quelles seraient les conséquences s'il jouait vraiment ce rôle. Et pour ça, il faut quand même comprendre que l'activité, la connaissance, c'est pas une activité à court terme. Elle a trois volets. La création de connaissances nouvelles, qui est du court et du moyen terme, l'utilisation des savoirs pour répondre à des besoins, qui est du moyen terme, et la transmission des connaissances et des savoir-faire, nouveaux et plus anciens, qui va jusqu'au long terme. Et ces trois aspects sont indissolublement liés. La politique de recherche définie par la Commission vise à réorienter la recherche publique pour permettre aux entreprises à moindre coût d'être à la pointe de l'innovation, qui est considérée comme le moteur de la compétitivité. Et même si elle préconise d'augmenter l'effort global de recherche, elle ne répartit pas cet effort. Bien au contraire, elle sacrifie des pans entiers des domaines de recherche, c'est-à-dire de connaissances, ce qui ne permettent pas pour elle d'espérer des retours rapides sur investissement. Pour faire bref, cette politique aura des conséquences très dommageables dans deux domaines, la recherche fondamentale et surtout les innovations dans des domaines qui intéressent la société et pas les sociétés. Et je vais prendre un exemple, et c'est l'exemple de la santé. Les programmes qui sont promus par ce PCRD en ce qui concerne la santé sont tournés vers des recherches basées sur les avancées récentes en génomique qui sont considérées évidemment comme susceptibles de mettre au point des médicaments très chers, innovants. Ils permettront des soins personnalisés pour ceux qui pourront se payer les tests génétiques que les prises de brevets rendront de plus en plus onéreuses. Et entre autres, par exemple, on va laisser les enfants des pays riches se bourrer de sucreries, puis on va soigner l'obésité. C'est toute la façon dont ça se dessine. Naturellement, je n'ai pas besoin d'insister sur la mortalité pendant ce temps dans les pays en développement, mais aussi dans le quart monde des pays riches. Donc il y a un lien direct entre la politique de recherche dans ce domaine, les sciences de la vie, et la concurrence libre et non faussée entre les firmes pharmaceutiques qui déterminent la politique de la santé. Mais inversement, si on veut changer la politique de la santé, si on veut mettre l'accent sur la prévention, sur le soin des maladies issues de la misère, de la vie malsaine, des risques industriels ou autres, il faut, pour pouvoir le faire dans plusieurs années, développer dès maintenant des recherches dans des domaines où elles ont été déjà supprimées ou risquent de l'être. Sociologie, ergonomie, diététique, physiologie, microbiologie, il y en a des tas comme ça. Là, c'est ce qui est le plus important, ce qui se passe maintenant obère le futur pour des politiques sociales. Et il y a peut-être encore plus grave, c'est que la recherche étant directement liée à la formation, si des pans de recherche disparaissent, ce sont des pans de formation future qui disparaissent, et donc c'est des connaissances qui disparaissent peut-être pour des générations. Donc, encore une fois, les politiques scientifiques, ce n'est pas quelque chose qui concerne seulement les scientifiques. Loin de là, ce sont des politiques économiques. Ce sont des politiques directement en rapport avec la politique libérale, dans ce qui est proposé maintenant. Et en retour, elle tend à perpétuer cette politique. Parce que des champs entiers de domaines de connaissances qui disparaissent et qui permettraient des recherches tournées vers le social, ça perpétue la politique libérale. Alors, quelles sont les méthodes utilisées par Bruxelles pour mettre en œuvre ces politiques de recherche? D'une part, il y a ce qu'on a appelé l'espace européen de la recherche, qui cherche par toutes sortes de moyens à faire en sorte que les gouvernements se plient à ces méthodes. Et de ce point de vue-là, en France, le gouvernement Raffarin a été un excellent élève Et il y a eu des grosses batailles de scientifiques contre ça. Mais là, le traité constitutionnel peut intervenir directement. Le traité constitutionnel va aider à rendre définitive une politique antisociale qui, en tant que telle, rendra aussi irréversible, et pour d'autres raisons, les politiques libérales en matière de santé et bien d'autres.
Voilà, donc c'était Janine Guespin, cofondatrice du réseau européen ISSF. On poursuit avec Georgios Katsabourenis, qui est membre du réseau de jeunes européens de la gauche démocratique, le réseau NDIL.
Dans ce traité constitutionnel, on a 4 parties. La troisième traite de questions de contrôle de frontières, d'asile et d'immigration. Elle est consacrée aussi aux politiques et au fonctionnement de l'Union. Contrairement à chaque tradition constitutionnelle de chaque pays, ce traité établit une hiérarchie que, par le haut vers le bas, et qui subordonne les droits fondamentaux à zéro, avec le résultat d'avoir des droits fondamentaux, des droits sociaux et politiques qui n'existent plus. Ce nouveau traité veut nous donner l'idée, l'apparence que l'Europe soutient, disons, les politiques d'immigration qu'elle avait les dernières années. Et donc, ce que le nouveau traité prévoit, c'est l'Europe forteresse, en rejetant toute l'égalité entre les citoyens qui vivent dans les limites de l'Union européenne. Un très bon exemple de cela, c'est le droit d'asile. D'une façon étrange, ce droit d'asile n'est plus inscrit en tant que tel au sein de la section de la Charte des droits fondamentaux. Et il est mentionné aussi que il est mentionné en plus que l'Union développe une politique commune en matière d'asile. Mais quand on a l'exemple de toutes ces bases de concentration à travers l'Europe, c'est une question dont les peuples et les jeunes, comme nous au réseau NDIL, ne puissent pas accepter. Et donc toutes ces questions sont des questions humaines, c'est pas des questions politiques après une certaine limite. Donc comme humain de gauche, radical, progressiste, etc., on dit non à cette constitution pour les raisons de ce traité pour les politiques d'immigration. J'aimerais vous inviter au prochain Forum social européen qui sera à Athènes en avril 2006.
Tout de suite, on poursuit avec Monika Karbowska.
Je représente.
Avec Monika Karbowska, donc, qui est polonaise et féministe. Et on va l'écouter tout de suite.
Je représente l'initiative féministe européenne pour le non à la Constitution, qui est un réseau qui est issu de l'Assemblée des femmes du Forum social européen de Londres. Et donc l'initiative féministe européenne pour un non à la Constitution a lancé un appel aux femmes et aux hommes d'Europe, donc qui reprend les arguments, enfin qui donne les arguments féministes contre la Constitution. Cet appel a été élaboré par un réseau de 3000 personnes en Europe, a été signé par 1000 personnes de 28 pays et par 80 organisations. Donc cet appel est le prolongement du travail qui a été fait par les féministes sur l'Europe, pour une autre Europe, depuis le FSE de Bobigny. Et j'ajoute aussi que nous faisons partie de la plateforme féministe pour un non à la Constitution, au projet de Constitution. C'est une plateforme en France qui réunit toutes les forces sur la base d'arguments féministes en France pour obtenir un non lors du référendum. Alors, ce que je voulais dire, bien sûr, par rapport aux femmes, c'est que, bon, avant tout, le libéralisme, le néolibéralisme est très néfaste pour les femmes. Effectivement, un projet de constitution dans lequel la concurrence est libre et non faussée, et en guise de politique de l'emploi, nous avons la promotion d'une main-d'œuvre capable de s'adapter au marché du travail. C'est néfaste pour les femmes parce qu'elles sont les premières victimes de la flexibilisation, de la précarité, du temps partiel. Le temps partiel qui touche le 80% en France des travailleurs qui sont en temps partiel sont des femmes. Et qui dit temps partiel dit aussi salaire partiel et par la suite aussi allocation chômage partiel et aussi retraite partielle. Nous ici à l'initiative féministe, nous pensons que ce type de projet de flexibilisation de précarité généralisée est très très dangereux pour l'autonomie des femmes, c'est-à-dire les femmes ont besoin de leur propre salaire pour être indépendantes dans la famille aussi vis-à-vis de leur conjoint. Par ailleurs aussi, la libéralisation annoncée des services publics dans le traité constitutionnel, dont notamment article 3 de 148, menace aussi l'autonomie des femmes, puisque on le sait aussi dans le mouvement féministe, que le capitalisme, en supprimant les services publics, fait peser, en fait, sur les femmes, ce que le service public est censé prendre en charge, à savoir le soin aux enfants, le soin aux malades ou le soin aux personnes âgées. Cela, c'est en général pour la situation des femmes en Europe entière. Et là maintenant, je vais m'arrêter un peu plus sur l'article donc 1, 52 et 53 et 2, 70. En l'occurrence, ce sont les articles qui parlent du dialogue avec les églises et les associations religieuses et du droit de manifester sa religion en privé et en public. Alors, c'est en effet de la laïcité, j'ai envie de dire. La laïcité ne fait absolument pas partie ni d'un objectif ni des valeurs du projet du traité européen. Et ça, c'est très dangereux, puisque dans cet article, le Vatican est assimilé à une association religieuse, ce qui est vraiment une fumisterie, sachant que c'est quand même un État théocratique, un État étranger qui ne fait pas partie de l'Union européenne, mais qui par contre décide de beaucoup de choses, vraiment de la situation des femmes en Europe. Donc je vais vous parler de la Pologne. Je suis vraiment heureuse de pouvoir le dire ici, hein. Vous pouvez pas imaginer. C'est absolument impossible de dire cela publiquement en Pologne. Tout simplement impossible, même quand on est socialiste. Donc en l'occurrence, le Vatican a fait pression sur le gouvernement polonais pour signer un concordat en 1993. Un concordat, donc, c'est un traité d'État à État entre le Vatican et un État. Et donc ce traité a consacré une ingérence massive de l'Église dans la vie politique en Pologne, notamment à supprimer le mariage civil en établissant un mariage concordataire, ce qui permet de faire une propagande très intensive contre le divorce. Il y a aussi une propagande intense du Vatican qui a quand même sa presse, sa radio, ses télés, mais le Vatican fait aussi sa propagande dans les lieux de culte directement en Pologne. C'est une propagande contre ce que le Vatican appelle la culture de la mort. Alors la culture de la mort, c'est tout simplement nos droits, hein, nos droits fondamentaux, notamment le droit à l'avortement, le droit à la contraception, le droit de choisir son conjoint et de vivre en dehors du mariage. Voilà, donc ça c'est important de se le dire, que ça fait quand même 30 ans qu'ils font cette propagande en Europe de l'Est. 30 ans déjà que ça dure. Je voulais juste dire aussi que cette politique a eu comme effet d'influencer massivement les jeunes contre l'avortement et contre la contraception, à l'école publique même, puisque le Vatican a insisté pour que l'État polonais intègre le catéchisme dans les écoles publiques dès 1989. Résultat, à l'école, les jeunes apprennent que la contraception c'est mauvais, l'avortement c'est la Shoah, et que de toute façon le préservatif ne protège pas du sida. Alors ça c'est donc voilà pour l'ingérence dans les politiques de santé publique. Il n'y a que la laïcité et que vraiment une laïcité ferme qui permettrait donc aux États qui sont sous influence du Vatican de se débarrasser de cette influence. Et c'est pour ça que moi je pense qu'on a vraiment besoin de cette notion dans une constitution européenne. Je poursuis sur aussi l'article 269 sur le droit au mariage. Donc ça c'est 1, 52 et 53 et 2, 70, enfin 1 pour la partie et après pour l'article. 52, 53 et 2, partie 2, 70 pour la liberté de manifester sa foi en public. Donc l'article partie 2, article 69 mentionne donc le droit au mariage, mais ne dit rien du droit au divorce, alors qu'il y a des pays qui interdisent le divorce, comme par exemple à Malte. Moi, je pense que nous avons besoin, dans une constitution européenne, de le droit, pas simplement au mariage, mais d'avoir le droit de choisir son orientation sexuelle et de vivre aussi hors mariage, sans mariage. C'est d'autant plus important pour les pays de l'Est, où la pression pour vivre dans le mariage est très forte. Évidemment, elle est tout à fait poussée par le Vatican, mais aussi par les médias ultralibéraux et aussi, bon, par la société qui reste traditionnelle. Dernier point, et qui me semble vraiment, c'est quelque chose qui me vraiment touche beaucoup de le dire ici, c'est que la Constitution, le projet de Constitution européenne ne parle absolument pas des droits reproductifs. C'est-à-dire, il ne mentionne pas le droit à l'avortement, il ne mentionne pas le droit à la contraception. 448 articles et rien, rien du tout sur ce droit qui est fondamental pour les femmes, le droit de disposer de son corps. En Europe, il y a 4 pays où l'avortement est illégal, l'Irlande, le Portugal, Malte et la Pologne, depuis 1993 en Pologne. Aujourd'hui en Europe, et ça je voulais le souligner, on meurt d'avortement clandestin. Il y a des femmes qui meurent d'avortement clandestin. On est en 2005 et c'est intolérable. Moi je pense que c'est intolérable. Actuellement je suis en train de traduire des témoignages de femmes qui ont subi des avortements en Pologne, c'est le planning familial polonais qui me l'a demandé, et il y a des témoignages de parents dont l'enfant est morte au cours d'un avortement clandestin pratiqué dans des cabinets privés, parce que ça, l'interdiction, ça favorise aussi la privatisation des soins, et les médecins n'osent pas appeler le secours parce que c'est eux qui vont en prison suite à un avortement. Voilà, donc pour moi, cette Constitution est parfaitement hypocrite, et vraiment particulièrement hypocrite, notamment avec son article sur l'égalité entre les hommes et les femmes, alors qu'elle passe sous silence ce droit fondamental et qu'on tolère qu'il y ait des femmes aujourd'hui en Europe qui meurent d'avortements clandestins. Je pense qu'il n'y aura pas d'égalité déjà entre les Européennes tant que l'avortement restera criminalisé. J'ajoute aussi que pour faire le lien entre la politique du Vatican et le libéralisme, c'est la pression du Vatican qui a fait interdire l'avortement en Pologne en 1993, après quand même 36 ans de loi libérale. Donc il y a toujours un retour en arrière malheureusement possible. Mais ce sont les députés ultralibéraux qui ont voté cette loi en échange du soutien de l'Église à ce qu'on appelait à l'époque les réformes, c'est-à-dire l'introduction du capitalisme. À l'époque, en décembre 92, le chef de l'Église polonaise est venu en personne au Parlement dire aux députés que l'Église ne soutiendra pas le capitalisme si les néolibéraux ne votent pas cette interdiction. Évidemment, les députés ont voté l'interdiction. Et les socialistes, au pouvoir en Pologne depuis, ça fera depuis 5 ans, ont reconduit l'interdiction de l'avortement en échange du soutien de l'Église à l'adhésion à l'Union européenne en 98. Alors on voit très bien que en fait les néolibéraux et l'Église se donnent la main. Voilà. Alors moi je pense aussi que pour revenir à l'actualité, ce changement, ce n'est pas un changement à la tête du Vatican qui amènera quelque chose, puisque bon, il y a quand même des hommes réactionnaires à tous les postes clés, et je pense pas qu'on puisse se dire voilà, maintenant tout va changer. Alors je voulais dire aussi que en ce qui concerne la Pologne, les féministes risquent de voter oui, il y aura un référendum en octobre, et encore ce n'est pas sûr, hein, parce qu'on parlait d'un référendum, mais comme les socialistes ont un peu peur que les arguments du non réémergent, peut-être que finalement il n'y aura pas de référendum. Pour aujourd'hui, il y a un référendum qui est planifié pour le mois d'octobre, mais les féministes risquent de voter oui, parce que le libéralisme leur semble un moindre mal que les partis d'extrême droite qui, eux, évidemment, appellent à voter contre la Constitution, parce que pour eux, la Constitution, c'est l'Europe, et l'Europe est synonyme de la culture de la mort. Donc là encore, on est vraiment pris en otage par les partis d'extrême droite. Les néolibéraux favorisent les partis d'extrême droite, et après, nous, on est pris en otage par leur existence.
Voilà, donc c'était Monica Karbowska, et on peut dire que ça fait plaisir d'entendre des choses comme ça sur le Vatican à l'heure où toutes les télés, tous les médias et même l'État se met à célébrer la mort du pape.
Sois là plus souvent près de moi, là, accorde-moi ce temps-là, même si tu ne voulais pas ça, ça m'enchante, crois-moi. Moi qui croyais en toi, toi qui n'y croyais pas, la vida te da sorpresas y no puedo ver nada.
raison que je n'ai pas senti ta chair, chère à moi, chère aimant. Penses-tu au temps qui passe? Crois-tu que l'on se lasse de ce foutu présent? Oui, non, non, oui, décide-toi, mon ami. Oui, non, non, oui, décide-toi, décide-toi. Oui, non, non, oui, décide-toi.
C'était le Maximum Quad. Vous êtes toujours sur Fréquence Paris Pluriel. Vous écoutez Les Oreilles Loin du Front jusqu'à 20h30. Et on poursuit donc la retransmission du débat Un nom européen, la constitution pour construire une Europe sociale et démocratique. C'était dimanche dans les locaux du Parti communiste français. On poursuit l'écoute de ce débat avec Franco Russo, militant italien, membre du réseau RETS, réseau européen pour la démocratie et les droits sociaux.
Je souhaite du profond de mon cœur que les noms au référendum en France vainque parce que ça, la victoire du non au traité constitutionnel, ouvrira la voie à la fondation de la constitution des citoyennes et citoyens d'Europe. L'Europe des élites technocratiques ne peut pas construire une société démocratique. Nous devons avoir le courage d'affirmer le fonctionnalisme qui vise à construire l'Union à travers les marchés et l'intergouvernementalisme ont fait faillite. Il y a une différence entre traité et constitution. La première est le résultat d'une entente entre les États. La constitution ne peut être que le résultat de la participation populaire. Le traité est décidé par l'eau, la constitution par les bas. Seulement si le traité sera rejeté, s'ouvrira une voie pour affirmer la participation des citoyennes et citoyennes comme sujet constituant. Les gouvernements disent qu'il serait une tragédie. Je pense que le non au traité sera seulement le signe de l'échec des gouvernements. Pour cette raison, je suis d'accord complètement avec Yves Sallès quand il écrit que cet échec était à l'intergouvernementalisme. Désormais, écrit encore Sallès, le bilan doit être tiré. Les forces qui dirigent l'Europe ne la construisent pas. Les primats du marché et l'intergouvernementalisme ne les permettent pas. Si nous voulons l'Europe, il est nécessaire l'irruption de la volonté populaire. Ce qui est très important, et ça est quelque chose de nouveau, est que nous ne voulons pas soutenir les raisons souverainistes de la souveraineté des États. Nous voulons une Europe démocratique. Si le non va vaincre, la parole ne sera plus aux États, mais il sera possible qu'elle soit aux citoyens. La faillite du marché, aussi parce qu'il ne peut être force d'intégration, mais de désintégration sociale, comme l'a soutenu non seulement Marx, mais aussi Karl Polanyi. Le rêve de Monnet, de Schumann, d'unifier l'Europe à travers l'économie, en utilisant les forces du marché, a échoué. Cette marche, signée par la CECA, les traités de Rome, de l'acte unique, de Maastricht, d'Amsterdam, de Nice, a signifié l'affirmation du néolibéralisme, c'est-à-dire la transformation de toute la société en marché. Et ça a impliqué l'aggravation du déficit démocratique, précarisation, privatisation des services publics, déréglementation du marché du travail, mise en question des droits sociaux. Le droit du travail en particulier a été troublé par les politiques libérales, créant à présent un véritable workfare qui précipite à nouveau les travailleurs et la travailleuse dans un rapport de pure force sur les marchés, où il reconnaît uniquement sa faiblesse, supplée au XXe siècle par les droits au travail qui s'est affranchi de la discipline commerciale. L'employabilité est devenue la parole magique pour briser la solidarité du travail et faire du travailleur un chef d'entreprise de lui-même. La chosification, la marchandisation de la personne est incarnée dans le capitalisme mondialisé. Les migrants ne peuvent rester que tant qu'il a un contrat de travail. Les natifs est à présent réduit à une existence précaire. L'insécurité est l'épée de Damoclès qui oblige les travailleurs à accepter des conditions et des salaires imposés par la compétitivité mondiale. L'individualisation du contrat de travail est l'objectif des réformes du marché de l'emploi. La multiplication des formes de contrats qui reflètent les processus de production flexibles, décentralisés, répandus sur les territoires, fragmente le monde du travail et rend la croissance des salaires toujours plus difficile. Les points suivants devraient être inscrits dans la Constitution européenne, conformément aux souhaits de l'Union européenne en matière de promotion de la société de la connaissance. Les droits inhérents à tout l'avantage de nouvelles garanties pour les formes de travail immatérielles et les différentes formes d'exploitation de la marchandise connaissance et de la marchandise information. L'achevêtrement entre travail et non-travail, entre formation et travail, la différenciation de la typologie contractuelle exige un véritable statut européen du travail, en mesure d'offrir des instruments de garantie et de démocratie, emploi, licenciement, horaires, flexibilité, salaire, représentation et démocratie syndicale. Il s'agit des chapitres qui doivent être rédigés dans la langue européenne. Il convient actuellement de faire preuve en davantage de détermination d'une subjectivité constituante en vue d'une Europe qui aille au-delà des souverainetés étatiques et nationales, qui donne naissance en citoyenneté cosmopolite, qui se dote des instruments de politique économique pour une gestion démocratique des biens communs et des services publics universels. Une Europe qui ne soit plus mercantile, mais bien durable sur le plan écologique et social. Si le no vaincra, nous pourrons passer du traité à la Constitution, ainsi les citoyens et les citoyennes deviendront les sujets, pas plus les objets, de la Constitution européenne. Merci.
Donc c'était Franco Russo. Maintenant, on va écouter Miguel Portas, qui est un militant portugais, député européen du Bloc de gauche.
Bonjour, j'essaierai de dire trois, quatre choses dans un français d'immigrés, donc créatif.
Comme moi.
Sur les relations du Portugal avec l'Union européenne dans le contexte du référendum. L'adhésion du Portugal à l'Union européenne a été pas une histoire d'amour, mais un mariage d'intérêts. C'est exactement ça. Deux ans après la Révolution, les élites, les gouvernements ont demandé la procédure d'adhésion et vraiment sa préoccupation était finir définitivement avec la propre idée de révolution au Portugal. a été un objectif politique, pas un objectif économique même. Les choses ont évolué, et ce qui est vrai, c'est que en 85, au moment de l'adhésion, vraiment l'intérêt des élites portugaises était la captation de fonds structurels. Ça était vraiment l'objectif de l'adhésion du pays à l'Europe. Et on doit le dire, le seul secteur de l'État portugais qui est vraiment efficace, même aujourd'hui, c'est le secteur qui fait la centralisation de la captation et distribution de fonds structurels dans notre pays. Toutes les expectatives, toute l'idée de que l'Europe était le progrès, ont fait son chemin pendant les années 90. Vraiment, le problème se pose plus tard, et c'est le problème de la réalité. Au Portugal, le Portugal a perdu une extraordinaire opportunité de modernisation dans les siècles 18 et 19 avec l'or du Brésil. Et l'a perdu de la même façon avec le nouveau or du Brésil, les fonds structurels. Et ça, c'est vrai parce que le paysage de mon pays a vraiment changé. Les autoroutes, la capacité de construction civile, même le renforcement du secteur financier. Ça a changé le paysage. Mais tous les vrais retards du pays se maintiennent aujourd'hui. Les mauvais salaires, l'évasion fiscale, la baisse, la qualification professionnelle très baisse, tous les problèmes structurels du pays se maintiennent après 20 ans d'adhésion. Ça, c'est le problème. C'est le problème de la réalité que, quand la récession, dans le tournant du siècle, a arrivé à toute l'Europe et au Portugal, nous n'avons pas une crise pour résoudre, mais deux crises pour résoudre. La crise déterminée pour les effets de la crise internationale, la crise que tous vous connaissez, et aussi la crise d'un modèle de développement qui est absolument épuisé et qui a failli. Le modèle extensif est alicercé sur la construction, les bas salaires et l'évasion fiscale. Ça, c'est alors le moment où le mariage d'intérêts donne la place au divorce ou à la désillusion. Nous avons les autoroutes. Mais nous avons des salaires européens. Non, pas des salaires européens. Notre salaire minimum, c'est de 360 euros. La pension minime, c'est de 160 euros. Le salaire moyen est de 450 euros, quelque chose comme ça. Mais les choses coûtent au Portugal presque le même qu'en France. Nous avons les équipements et les infrastructures, les expos, les championnats de football, etc. Mais nous n'avons pas l'État-providence, la qualification professionnelle ou la santé européenne. À mon avis, ce traité représente la tentative de refondation libérale de l'Europe. L'alternative à ce traité, si le peuple français vote le non, et je l'espère bien, le 29 mai, on va ouvrir le débat. Et le débat, nous avons deux possibilités. Ou nous disons, il n'y a plus rien à faire, ou nous profitons de la force de ce non, que c'est un non social, pour faire le chemin, pour que la voie de l'insubmission civique dans les urnes puisse faire un chemin dans un projet européen, démocratique et social. Et je dois dire que, merci Français, je suis profondément convaincu que nous irons vaincre les Français et tous les autres qui en Europe se battent pour une Europe sociale. Merci.
Voilà, donc après donc ce témoignage de Miguel Portas et puis ceux de tous les autres, donc des témoignages européens du Danemark, de la Grèce, de la Pologne, de l'Italie, du Portugal, on va passer à des commentaires en France. On va commencer avec donc une réflexion d'Yves Salès, qui est donc coprésident de la Fondation Copernic.
Nous avons conçu cette deuxième étape comme étant tournée vers la formulation des politiques et des propositions alternatives dans notre bataille pour une autre Europe. Ce matin, l'ensemble des témoignages internationaux, qui a d'ailleurs dépassé nos espoirs initiaux, a montré qu'il y a la potentialité d'étendre le mouvement de discussion à l'ensemble de l'Europe, mais nous ne devons pas évidemment rester simplement à la dénonciation de l'Europe libérale. Il faut que nous soyons capables de formuler des objectifs politiques, sociaux, économiques, montrant effectivement qu'une autre Europe est possible. Nous avons franchi une étape en France. Nous avons réussi à imposer le débat. Nous avons réussi à imposer le débat et le non, dans sa progression, sans préjuger du résultat final, commence déjà à payer, puisque vous avez vu que la directive Bolkestein, qui avait été votée des deux mains, je ne fais pas référence à une photo, aussi bien par Barnier que par Lamy, et que face à laquelle les gouvernements, et notamment le gouvernement français, n'avaient rien trouvé à redire, soudainement, à cause de la montée du non, est devenu quelque chose d'absolument inacceptable pour Chirac et qu'il fallait remettre en cause. Le pacte de stabilité, qui n'était pas touchable, finalement a été, d'après la presse, assoupli. Évidemment, ça ne nous suffit pas, nous ne sommes pas dupes, nous ne sommes pas naïfs, et nous ne voulons pas assouplir les offensives libérales, nous voulons les stopper. Mais ce débat a commencé à marquer des points, non seulement dans la dénonciation de l'Europe libérale, mais également sur un point presque plus important, qui est la question de la dévitalisation de la démocratie par la constitutionnalisation des politiques. Cette méthode pratiquée par les gouvernements depuis longtemps, qui consistait à faire monter dans les traités les politiques libérales sur lesquelles ils s'étaient mis d'accord, est évidemment confirmée, amplifiée par le projet de traité constitutionnel, où il s'agit non seulement de faire dire aux victimes des politiques libérales qu'ils sont d'accord avec les coups qu'ils ont pris sur la tête, c'est quand même une entreprise assez audacieuse, mais où, contrairement à ce que disent les défenseurs du oui, il y a des articles nouveaux qui poursuivent ce processus. Je prends un seul exemple. L'énergie a été dans bien des pays, et pas seulement en France, un monopole de services publics pendant fort longtemps. L'énergie a été libéralisée par toute une série de directives ouvertes au marché. Nous nous sommes battus contre ces directives. Nous avons perdu. Mais le minimum démocratique devrait quand même consister en ce que l'on puisse penser que ce qu'une directive a fait dans un sens, une autre directive puisse le défaire un jour, s'il y avait changement politique. Eh bien, ce ne sera plus possible, puisque vous l'avez sans doute noté, il y a un nouvel article dans le traité constitutionnel qui inscrit la libéralisation du marché de l'énergie au rang de valeur constitutionnelle. Ce processus qui consiste à faire sortir ce qui relève du domaine de la loi, de la délibération publique normale et du fonctionnement normal des institutions pour en faire des règles supérieures de niveau constitutionnel et donc qui s'imposent, quelle que soit la majorité politique, est certainement quelque chose de très pensé. Ça n'est pas une improvisation empirique qui s'est déroulée au fil du temps. Je vous indique, pour ceux qui s'intéressent à ces questions, que les deux derniers prix de ce qui tient lieu de prix Nobel d'économie, Kidland et Prescott, 2004, se sont rendus célèbres par un article paru aux États-Unis au milieu des années 70, en 1974 très précisément, et dont le cœur était exactement cela: il faut constitutionnaliser les politiques économiques, de façon à les soustraire de l'instabilité de la démocratie. Il y a dans le libéralisme une école antidémocratique théorisée et dont nous connaissons les premières applications systématiques dans la construction européenne. Mais maintenant, évidemment, se pose la question, et c'est à ça que sert cette réunion, problème qui se posera de toute façon, mais encore plus si le non est vainqueur, qu'est-ce que nous faisons au lendemain de cette victoire du non? Je crois qu'il faut que nous commencions, et c'est pour ça que nous n'avons pas voulu faire un meeting, mais une réunion de travail européen entre nous sur cette question. Il est évident qu'en France, le processus unitaire qui a été engagé et qui est le grand atout de cette campagne, nous devons réfléchir à son prolongement sur les questions de construction européenne et de politique alternative que je viens d'évoquer et qui vont être traitées de façon plus détaillée par les intervenants. Mais nous devons maintenant nous poser la question d'amplifier, de prolonger ce que nous avons réussi ici au niveau européen. Je pense que très concrètement, notamment évidemment si le non l'emporte en France, nous devons nous poser la question d'un appel, non pas des 200, mais puisqu'il y a 25 États membres, disons des 250 au niveau européen, de façon à ce que le débat soit prolongé dans l'ensemble des pays de l'Europe, là où les forces politiques dominantes ont réussi jusqu'à présent largement à le verrouiller. Appel des 250 Européens qui pourraient être, comme nous avons demandé, qu'ils soient relayés dans toutes les villes, aujourd'hui plus de 400 collectifs en France, que dans chaque pays, il y ait un appel des 200 et qui se structure dans toutes les villes de chacun des pays européens, de façon à ce que le débat sur l'Europe, le débat sur l'Europe que nous voulons, soit effectivement un véritable débat européen, ce qui n'est pas encore. Débat qui devrait porter sur quoi? À mon avis, dans quatre directions. Premièrement, le bilan, mais deuxièmement, au-delà, quelle politique concrète nous voulons en Europe, que nous pensons praticable, mais qui se heurte aux dispositions du traité constitutionnel et aux dispositions du droit européen. La lutte contre le chômage au niveau européen, les services publics, non pas simplement défendre les services publics, mais y compris construire des services publics européens objectivement nécessaires dans toute une série de domaines. La question de l'harmonisation sociale, nous savons que nous aurons là-dessus des débats difficiles entre nous. Troisième dimension, comment concevons-nous l'Europe sociale, démocratique à venir? Nous savons qu'il y a là aussi un débat qui n'est pas encore tranché et même véritablement mené entre nous. Dernière direction, c'est qu'est-ce que serait une véritable constitution européenne? Quels sont les droits fondamentaux? Quels sont les principes fondamentaux que nous voulons y voir inscrire? Je ne développe pas. Cela serait le prémisse d'un véritable mouvement constituant européen. Impliquer les peuples est d'autant plus nécessaire dans l'objectif d'une Europe démocratique qu'il n'y a pas aujourd'hui d'État européen. Alors, les exigences d'un processus constituant démocratique qui ont pu avoir lieu dans nos différents États ne doivent pas être moindres au niveau européen, elles doivent être encore supérieures. Si nous voulons un véritable processus constituant européen, il doit aller plus loin dans l'approbation des peuples encore que ce que nous avons conçu et réalisé au niveau national. Lorsque le roi envoie son émissaire aux députés du tiers état et leur ordonne de se disperser et que Mirabeau répond « Allez donc dire à votre maître que nous sommes ici par la volonté du peuple », ça n'est pas un effet de manche, ça n'est pas une habileté oratoire. C'est parce qu'il y a eu pendant des mois et des mois dans toutes les villes et villages de France des débats en profondeur autour de la rédaction des cahiers de doléances. Et lorsque l'on examine aujourd'hui les cahiers de doléances, on voit tous les traits majeurs de ce que sera la constitution révolutionnaire. L'exigence d'une constitution, la fin des privilèges, le fait que ce sont les élus de la nation qui doivent voter la loi et les impôts, la liberté de conscience, les libertés individuelles. C'est ça qui va donner sa force à la constitution révolutionnaire, nous ne pouvons pas imaginer un processus moindrement démocratique qui implique moins les peuples au niveau européen. Et si nous faisons, si nous arrivons à avoir cet appel des 250 Européens répercuté partout, un des objectifs, à mon avis, doit être non seulement d'avoir des débats systématiquement en profondeur dans toutes les villes de tous les pays d'Europe, mais pourquoi pas rédiger nos cahiers d'exigences par rapport à l'Europe que nous voulons. Je vous remercie de votre attention. Alors, je vais passer la parole dans l'ordre.
Voilà, donc c'était Yves Salès pour la Fondation Copernic. On va terminer donc les retransmissions des extraits de ce débat « Un nom européen à la Constitution pour construire une Europe sociale et démocratique » avec une intervention de Raoul Génard, chercheur à l'URFIG. C'est l'unité de recherche, de formation et d'information sur la globalisation. Et on écoute ça tout de suite.
On m'a demandé de vous parler des services. Je vais prendre comme point central la proposition de directive sur la libéralisation des services dans le marché intérieur, beaucoup mieux connue sous le nom de son auteur, proposition Bolkestein, même s'il faut toujours se rappeler qu'elle fut adoptée par la totalité de la Commission européenne, en ce compris les 9 commissaires sociaux-démocrates et la commissaire verte allemande, et pour la France, l'UMP Michel Barnier et le membre du Parti socialiste Pascal Lamy. Alors, vous le savez, la proposition sur les services n'a pas été retirée, contrairement à ce que répète à satiété, sans être jamais démenti par les journalistes français, un Dominique Strauss-Kahn ou un François Hollande. Le Conseil européen, le sommet de printemps, qui avait demandé l'an passé qu'on lui accorde l'urgence, vient simplement de réitérer l'importance de la libéralisation des services dans le cadre du processus de Lisbonne, tout en tenant compte du modèle social européen. Il fallait bien faire quelques concessions pour qu'on n'examine pas cette proposition avant le 29 mai. Elle est donc au congélateur, on la remettra au four à micro-ondes après le 29 mai. Alors, première chose que je voudrais dire, et c'est qu'il ne faut pas oublier, parce qu'il y a là un caractère beaucoup plus permanent, la proposition de M. Bolkestein est un enfant de la GCS. Même volonté d'appliquer l'accord général sur le commerce des services à l'espace européen, l'exposé des motifs de la proposition Bolkestein dit ceci: les négociations de la GCS soulignent la nécessité pour l'Union européenne d'établir rapidement un véritable marché intérieur des services pour assurer la compétitivité des entreprises européennes et pour renforcer sa position de négociation. Si je suis un peu trivial et caricatural, je dirais: privatisons tout chez nous pour être en position de force pour exiger la privatisation chez les autres. Deuxième chose que je voudrais dire, Bolkestein, c'est une concrétisation de la stratégie de Lisbonne. Et rappelez-vous, il y a moins de 2 semaines, tous les gouvernements réunis à travers le Conseil européen du printemps ont réaffirmé leur adhésion à la stratégie de Lisbonne. La stratégie de Lisbonne qui a été rédigée il y a 5 ans formule en fait des objectifs qui complètent l'acte unique européen et le traité de Maastricht en s'alignant sur les accords de l'Organisation mondiale du commerce. La stratégie de Lisbonne prétend, comme l'a si bien dit Francis Wurtz au Parlement européen, faire du social avec du libéral. Cette stratégie se traduit 5 ans après par un échec retentissant caractérisé par 19 millions de chômeurs mais par des bénéfices pour les firmes privées comme on en a rarement vu depuis la libération et aussi par une précarité jamais atteinte depuis 1945. Cette stratégie de Lisbonne prétend atteindre ses objectifs en dérégulant davantage, en flexibilisant toujours plus, en facilitant les délocalisations. Elle s'avère être dans les faits l'instrument inavoué du démantèlement d'un modèle social pourtant imparfait. Cette stratégie, il faut le savoir, cette stratégie est à l'origine de principes comme le principe du pays d'origine, comme le principe de la reconnaissance mutuelle qu'on retrouve concrétisé dans la proposition Bolkestein. Et enfin, et ce n'est pas le moins important, si je lis ce que je trouve dans la littérature de la direction du Parti Socialiste Français et des Verts Français, la proposition Bolkestein est en fait une anticipation de ce que va nous offrir le traité constitutionnel européen s'il est ratifié. Article, même définition des services, je vous ai donné celle de la GCS tout à l'heure, je vous rappelle celle de Bolkestein. Toute activité économique consistant à fournir une prestation qui fait l'objet d'une contrepartie économique, dans le TCE, dans la fameuse partie 3, dont un professeur d'université qui sévit tous les matins sur France Culture a éprouvé le besoin de ne pas la publier dans un livre qu'il appelle « Constitution européenne », ce qui se traduit par le fait, je me permets de le noter quand même, que 325 articles sur 448 ne sont pas dans son livre qu'il appelle « Constitution européenne ». Dans cette troisième partie, on trouve la définition que voici, aux fins de la Constitution, sont considérées comme services les prestations fournies normalement contre rémunération. C'est exactement la même que dans Bolkestein. Dans l'article 1 de Bolkestein, quel est l'objectif ? La présente directive établit les dispositions générales en vue de faciliter l'exercice de la liberté d'établissement des prestataires de services, ainsi que la liberté de circulation. Dans l'article 4 du TCE, il est dit, au titre des libertés fondamentales, il y a des gens de 1789 qui doivent se retourner dans leur tombe, au titre de libertés fondamentales, la liberté d'établissement et la liberté de circulation des services. Les objectifs de la directive sont ceux du traité constitutionnel, puisque l'article 1 dit qu'il s'agit de la liberté d'établissement et de circulation des services. L'article, troisième partie, 144 du TCE, les restrictions à la libre prestation des services à l'intérieur de l'Union sont interdites. Ce qui veut dire, quatrième point que je veux aborder, rejeter le traité, c'est rejeter Bolkestein, c'est stopper la stratégie de Lisbonne, et c'est bloquer les négociations à la GCS. Parce que le traité constitutionnel est en fait une adaptation des règles de fonctionnement de l'Union européenne aux accords élaborés par l'Organisation mondiale du commerce, parce que, comme on l'a vu, la proposition de Bolkestein constitue en fait une version européenne aggravée de la GCS, parce que l'un comme l'autre sont empreints du néolibéralisme formulé dans la fameuse stratégie de Lisbonne, rejeter le traité constitutionnel, c'est non seulement exprimer un rejet de la proposition européenne sur les services, mais c'est également exprimer notre refus de la stratégie de Lisbonne et notre rejet de la GCS. Alors, je voudrais terminer par 5 objectifs. Je ne sais pas si vous l'avez entendu sévir sur une chaîne de télévision il y a une dizaine de jours. Martine Aubry disait que le choix est entre les idéologues et les réformateurs. La première chose que nous devons, je pense, exiger, c'est reconnaître la notion du service. C'est une notion qui est incompatible avec toute référence d'ordre commercial. La deuxième chose, c'est qu'il faut reconnaître le concept des services publics et ne pas accepter de se laisser enfermer dans une terminologie européenne qui nous parle de services d'intérêt économique général ou de services d'intérêt général, dont on sait qu'à la base, il y a la contrainte de la concurrence qui est incompatible avec la notion de service et de mutualisation des coûts des services. La troisième proposition, c'est qu'il faut interdire que soit appliquée à la notion de service public que je viens d'esquisser brièvement les règles de la concurrence. La quatrième, c'est qu'il faut extraire les services publics des contraintes liées à l'euro. C'est l'article 184 de cette fameuse troisième partie dont M. Duhamel prétend qu'on n'a pas à connaître. On nous dit que la Commission a le droit de déceler dans les budgets des États membres, les erreurs manifestes. Et enfin, il faut permettre, parce que je crois que c'est très important, il faut permettre que puisse se créer, à l'échelon européen, dans les matières où ce serait pertinent, des services publics de taille européenne.
Voilà, c'était Raoul Génard. Avant ça, vous avez pu entendre Yves Salès, Miguel Portas, Franco Russo, Monica Karbowska, Georgios Katsabiarounis, Janine Guespin et Finn Herman. C'était un débat dimanche dernier organisé par la Fondation Copernic et par Espace Marx, que je remercie encore pour nous avoir fourni les cassettes, pour m'avoir fourni les cassettes. C'était un nom européen à la Constitution pour construire une Europe sociale et démocratique. C'était Les Oreilles Loin du Front sur Fréquence Paris Pluriel avec ce soir Cédric qui a fait ses qui est tombé dans le grand bassin, avec Guillaume lui qui est tombé dans son lit puisqu'il est reparti se coucher, le pauvre il est malade, Alexandrine derrière les petits boutons de la platine, et donc on se retrouve la semaine prochaine avec un autre sujet surprise surprise. Et puis qu'est-ce que je voulais vous dire, oui, n'oubliez pas le site internet de l'émission qui commence à tourner très fort. Vous pouvez réécouter toutes les émissions de cette saison, puisqu'on va parler comme les séries télé, donc saison 2004-2005 depuis septembre 2004. Vous pouvez réécouter, je sais pas moi, les Big Brothers Awards, l'émission avec Annie Colovad, l'émission avec Mojelli par exemple, l'émission sur les violences faites aux femmes, l'émission, il y en a plein. Donc vous faites http://loldf comme les oreilles loin du front, loldf.free.fr. On vous quitte pour ce soir et on vous laisse dans les bras des échos du Capricorne. À la semaine prochaine.